Féroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce vendredi 11 septembre 2015. À la une ce soir.
Burundi, les autorités enquêtent sur une tentative d'assassinat visant le chef d'état-major de l'armée. Il a eu la vie sauve, mais l'attaque a fait 7 morts.
Côté ennemi, il y a eu 2 tués et 1 qui a été blessé. Côté ami, il y a 3 militaires qui ont été tués et 1 civil.
Pourquoi les militaires camerounais de la MINUSCA n'ont pas reçu leur prime de participation à la mission africaine en Centrafrique?
Selon son représentant résident au Cameroun, Mizui Mela, l'Union africaine n'a pas encore payé les primes des militaires déployés en Centrafrique.
Reportage à suivre de notre correspondant à Yaoundé.
L'aviation militaire de la Turquie intensifie sa campagne contre les rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Les dernières frappes ont fait une 60aine de morts.
Commémoration des attaques du 11 septembre aux États-Unis, un coup d'œil sur les écoles américaines et la façon dont cet événement est compris par les étudiants 14 ans après.
Nous reviendrons aussi ce soir sur la crise des migrants en Europe.
Et nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Recrudescence de la violence à Bujumbura, le chef d'état-major de l'armée burundaise a échappé de justesse à une embuscade au sud de la capitale alors qu'il se dirigeait à son travail. Au total, 7 personnes, dont des militaires de sa garde, y ont trouvé la mort, ainsi que des assaillants en tenue militaire. Écoutons le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Baratouza.
Le chef d'état-major général de la Force de défense nationale s'en est sorti intact et se trouve dans son bureau à ses occupations quotidiennes. Comme bilan, côté ennemi, il y a eu 2 tués et 1 qui a été blessé. Il y a une arme mitrailleuse Kalachnikov qui a été saisie, une arme RPG-7 lance-roquettes également qui a été récupérée et 3 armes Kalachnikov. Côté ami, il y a 3 militaires qui ont été tués et un civil qui travaille au ministère de la Sécurité publique également qui se trouvait à bord d'un bus Quaster qui a été également touché par balle et est mort sur le champ. Il y a aussi 6 militaires qui ont été blessés, se trouvent à l'hôpital pour le moment. Ceux qui ont planifié cet attentat n'avait pour objectif que de détruire la cohésion de la force de défense nationale, résultat d'une intégration réussie depuis 2005.
Le colonel Gaspard Baratouza. Revenons maintenant sur d'autres actes de violence enregistrés dans la capitale burundaise avec notre correspondant Christophe Kurunziza.
Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers de la capitale jusque vers 9h GMT. L'endroit était ceinturé par les forces de l'ordre qui ont refusé l'accès à des journalistes et à des membres du corps diplomatique. C'est sur la route qui mène vers Rumonge au sud du pays. Au même moment, un car transportant des officiers de la police qui utilisait la même voie a été attaqué par des hommes en tenue militaire. Plusieurs personnes auraient été blessées. 4 militaires viennent d'être arrêtés pour enquête selon des sources militaires. Le général-major Prime Niyongabo est parmi les militaires qui ont empêché le putsch sanglant du 13 mai dernier qui était dirigé par le général Godefroy Niyombare, aujourd'hui en fuite. Depuis un mois, l'on assiste également à une résurgence de la violence depuis la réélection contestée de l'actuel chef de l'État. Mardi soir, une position militaire avait été attaquée par des hommes armés, 2 assaillants avaient été tués et 3 militaires blessés selon l'armée. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Par ailleurs, une commission burundaise composée de 4 magistrats accuse 25 associations de la campagne Halt au troisième mandat et 6 partis d'opposition de mener un mouvement insurrectionnel.
Enquête sur les possibles viols commis par des militaires français en République centrafricaine. L'ONU a autorisé l'audition de son employé qui avait rédigé un rapport sur ces allégations. C'est ce que rapporte une source judiciaire citée par l'AFP. Cela signifie que les Nations Unies ont accepté la levée d'immunité juridictionnelle dont jouit la rédactrice du rapport afin qu'elle soit entendue comme témoin.
Nouvelle attaque dans le nord-est du Nigeria. Cette fois-ci, il s'agit d'une explosion dans un camp de déplacés à Yola, dans l'état de l'Adamawa. On compte au moins 2 morts et plusieurs blessés, mais les bilans restent contradictoires.
Présidentielle au Niger, l'ONU appelle à la tenue d'élections crédibles pour garantir la stabilité du pays. Il est impératif de soutenir le processus électoral afin de consolider les acquis dans le domaine de la paix à travers des élections apaisées, a déclaré l'envoyé spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Il faut dire qu'à 6 mois du scrutin, le climat politique est tendu entre l'opposition et le régime. Les opposants accusent le président Issoufou au pouvoir depuis 2011 de provoquer des scissions au sein de leur formation pour assurer sa réélection.
Le Fonds monétaire international a tenu à réitérer son engagement à appuyer le Libéria, dont l'économie se remet toujours de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Camille Grosdidier.
On sait que le FMI a déjà fait une entorse à ses règles pour aider les 3 pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie d'Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Mais jeudi, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, s'est engagée à faire davantage. Au terme d'entretien à Monrovia avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf, Madame Lagarde a salué les efforts héroïques du Libéria face à la maladie. Le Libéria est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à se déclarer début septembre, libre du virus qui a fait environ 4800 morts sur plus de 11 000 cas en 18 mois. Alors que la croissance plafonnait aux alentours des 8% avant la crise, elle est en chute libre depuis. Le FMI a déjà fourni environ 130 millions de dollars en nouveaux financements et en allègement de la dette au Libéria, a rappelé Mme Lagarde. Vous disposez d'une feuille de route, vous avez un plan et nous voulons coopérer avec vous, a-t-elle dit lors d'un point de presse à Monrovia. En plus de l'épidémie d'Ebola, l'économie libérienne se ressent de la chute des prix des produits de base, du fait notamment du ralentissement de la croissance en Chine. Madame Lagarde a appelé le gouvernement libérien à accorder priorité à 3 secteurs. Les infrastructures, la diversification de l'économie et les investissements dans le capital humain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
60 rebelles kurdes ont été tués la nuit dernière dans de nouveaux raids aériens en Irak. En signe d'apaisement, les autorités turques ont annoncé la levée d'un couvre-feu très controversé dans une ville turque en bordure de l'Irak. Claire Morin-Gibourg.
L'aviation turque a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une nouvelle série de frappes contre les camps des rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Selon des médias turcs, ces bombardements auraient tué au moins 60 combattants du PKK. L'armée turque avait lancé une précédente opération contre les mêmes cibles dans la nuit de lundi à mardi, en représailles à une attaque du PKK contre un convoi militaire qui avait tué 16 soldats à Daglika, dans l'extrême sud-est de la Turquie. Après ce lourd bilan, Ankara a annoncé la levée dès demain du couvre-feu à Cizre, un couvre-feu considéré comme un blocus par les Kurdes. Cette ville de 120 000 habitants à la frontière irakienne est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces de sécurité et les rebelles kurdes. Depuis la fin juillet, d'intenses combats ont repris entre l'armée et le PKK dans le sud-est de la Turquie.
Au Yémen, une attaque rebelle sur un marché bondé a fait au moins 20 morts, tous des civils. Par ailleurs, l'ONU attend toujours la réponse des rebelles chiites houthis quant à leur participation à les pourparlers de paix la semaine prochaine. Les autorités légitimes, dont le président Mansour Hadi, qui vit en exil en Arabie Saoudite, ont donné leur adhésion, mais rien n'est certain du côté de la rébellion qui contrôle encore la capitale et d'autres territoires du Yémen.
Crise des migrants en Europe. Aucun accord n'est trouvé entre l'Allemagne et ses 4 voisins. L'Allemagne est prête à accueillir 40 000 migrants ce week-end, nous dit Eddy Isongo.
Les pays de l'Est ont fait sourde oreille aux arguments du ministre allemand qui a parlé de plus grands défis de l'histoire de l'Union européenne et des besoins de solidarité. Les chefs de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaorálek, affirment que les États qui doivent accueillir ces migrants doivent pouvoir contrôler leur nombre. C'était lors d'une réunion avec ses homologues hongrois, polonais, slovaques et les luxembourgeois Jean Hasselborn, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne. Le ministre hongrois Péter Szijjártó a cherché à défendre la politique de son pays qui consiste à empêcher les passages des migrants vers d'autres pays européens. Son homologue slovaque Miroslav Lajkák a rejeté les accusations de manque de solidarité, estimant que le règlement de ces problèmes ne saurait être d'ordre administratif et que la solution ne devrait pas être imposée. Par ailleurs, la situation se normalise sur l'île grecque de Lesbos avec les transferts vers Athènes des quelques 22 500 migrants recensés cette semaine.
À l'occasion de la visite du pape à Cuba, le gouvernement cubain a annoncé le pardon et la libération dans les 72 heures de 3522 prisonniers, la plus grande amnistie depuis la révolution de Fidel Castro en 1959.
Les États-Unis commémorent aujourd'hui le 14e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Des minutes de silence à l'heure des attaques et des cérémonies du souvenir ont eu lieu à New York, au Pentagone et à Washington. Un survol avec Jacques Aristide.
À exactement 8h46, à l'heure à laquelle le premier avion de ligne détournée a percuté l'une des deux tours du World Trade Center new-yorkais, Barack Obama et son épouse Michelle se sont recueillis en silence ce vendredi dans les jardins de la Maison-Blanche. Puis le président américain devait se rendre dans l'après-midi sur la base de Fort Meade dans le Maryland pour y rencontrer des militaires et leurs familles. À New York, la commémoration a eu lieu à la 9/11 Memorial Plaza. Les noms des victimes, près de 3000, ont été lus par leurs familles. Recueillement ensuite au musée construit sur le site même des tours jumelles détruites par ces attentats. Au Pentagone, le secrétaire à la Défense, Ash Carter, a rendu hommage aux 184 personnes tuées lorsque l'un des quatre avions détournés par des terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé sur le bâtiment de la Défense américaine. Le 11 septembre 2001, une date à jamais gravée dans l'histoire des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
En Côte d'Ivoire, Bouygues se retire complètement des secteurs de l'eau et de l'électricité. Selon le magazine Jeune Afrique, le groupe français a cédé à plusieurs filiales d'AXA les parts qu'il détenait encore dans la compagnie ivoirienne d'électricité et dans la société de distribution d'eau. La cession serait intervenue le 31 juillet selon Jeune Afrique. Quelques 2000 fonctionnaires fraudeurs ont été découverts en 2015 dans l'administration publique ivoirienne. Le plus gros employeur de la Côte d'Ivoire a annoncé cette semaine le ministre ivoirien de la fonction publique, Cissé Ibrahim Bakongo. Les autorités ivoiriennes ont lancé depuis 4 ans un programme de modernisation de la fonction publique en vue de réduire la masse salariale qui avoisinait 50% des recettes fiscales alors que la norme communautaire est de 35%. Le secrétaire américain au Trésor, Jack Lew, a adressé une nouvelle lettre au Congrès pour le presser de relever le plafond de la dette. Le Trésor estime pouvoir continuer à emprunter jusqu'à la fin du mois d'octobre pour financer les dépenses de l'État fédéral grâce à des mesures provisoires comme il l'a fait par le passé lors de précédents bras de fer avec le Congrès. Le Congrès américain, dominé par les Républicains, a le pouvoir d'augmenter la capacité d'emprunt de l'État américain. Le plafond d'endettement est actuellement fixé à 18 100 milliards de dollars.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon.
Nous avons en studio Eric Manirakiza pour les sports. Salut Eric.
Bonjour cher Rubin Dorsib.
On commence en foot.
Bien sûr, la Fédération allemande de football a annoncé jeudi la prolongation de 3 ans jusqu'en 2019 de sa campagne 1-0 pour une bienvenue, une initiative réunissant quelques 600 clubs engagés en faveur des réfugiés Gabi. Et le patron du football allemand a promis une augmentation du budget initial fixé à 600 000 euros. Et le Ghana affronte le Canada en match amical le 13 octobre à Washington. Il y a beaucoup de Ghanéens qui vivent ici, a indiqué jeudi la Fédération ghanéenne de football. Et le Ghana qui est dispensé du premier tour des qualifications des zones Afrique au Mondial 2018.
Alors Eric, que se passe-t-il dans les stades européens ?
On va en Angleterre où le Manchester United et Liverpool, deux clubs en quête de repères, se retrouvent samedi à Old Trafford pour le choc de la 5e journée du championnat d'Angleterre qui arrive peut-être un peu tôt dans la saison. Et en Espagne, l'entraîneur du Real Madrid, Rafael Benitez, a appelé vendredi à réduire le nombre de matchs internationaux qui pour lui sont sans intérêt après les blessures bien sûr du Colombien James Rodriguez et du Brésilien Danilo avec leur sélection nationale. Et enfin pour les supporters de Messi, il a eu un bébé, un deuxième enfant, père de deux fils.
Ah bon ? Et l'enfant est né où ?
Il est né à Barcelone, c'est l'oncle de l'enfant qui l'a annoncé et Lionel Messi aussi a tweeté. Disant que le frère du joueur vedette du FC Barcelone, disant que les enfants sont portés bien.
Oui, voilà, à 28 ans, deux enfants, et compliments Lionel Messi. Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, le Cameroun.
L'Union africaine déclare n'avoir pas encore payé les primes des militaires envoyés en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA, la mission internationale de soutien à la paix en Centrafrique. La révélation survient au lendemain de la revendication par les militaires camerounais de leurs primes relatives à cette mission. Le président camerounais a ordonné le paiement de ces primes en attendant le remboursement par l'Union africaine. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
L'Union africaine vient de mettre un terme au débat. Selon son représentant résident au Cameroun, Mizui Mela, l'Union africaine n'a pas encore payé les primes des militaires déployés en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA.
La position de l'Union africaine, le mouvement dont il est question ici, ne concerne en rien le gouvernement camerounais. C'est un problème de retard administratif qui sont en train d'être réglés au niveau d'Addis Abeba et qui vont avoir leur épilogue d'ici peu.
Le président du Cameroun, Paul Biya, a ordonné le paiement de cette prime pour mettre fin à la grève des militaires. La décision du chef de l'État est immédiatement exécutée sur le terrain. Les 1300 militaires camerounais concernés passent désormais à la caisse. Il s'est dit soulagé.
Entièrement, je suis satisfait. Et nous disons vraiment bravo au chef de l'État qui a vraiment fait des grands efforts et il a écouté les pleurs de ses enfants et il s'est manifesté.
Je suis satisfait d'avoir perçu mon prime que j'ai eu à travailler pendant 19 mois en Centrafrique cet après-midi.
L'opération de paiement s'est faite sous la diligence du colonel Claude Ebine Détaillé.
Nous avons effectivement reçu tous les moyens débloqués par le chef de l'État. Nous avons reçu les instructions du monsieur le ministre pour payer tout le monde. Et je ne bougerai pas d'ici tant que le dernier militaire n'est pas entièrement payé. Et pour aller plus vite, nous faisons entrer des vagues de 90 militaires. Donc nous allons terminer avec tout le monde aujourd'hui.
Pour une certaine opinion, c'est Happy End observé cache mal un malaise social et la problématique d'indiscipline au sein de l'armée camerounaise. Moki Edwin Kinzeka, Yaoundé, VOA Afrique.
À Madagascar, Lala Ravalomanan, épouse de l'ancien président Marc Ravalomanan, est bien placée pour remporter la mairie d'Antananarivo, la capitale. La candidate devra cependant attendre la décision d'un tribunal administratif qui a été saisi d'une plainte d'un autre candidat. Pour un éclairage, Idriss Fall a joint à Tana la journaliste Voangi Rakutuzaf de Midi Madagascar.
Dans la capitale, la CENI a proclamé il y a 15 jours que Mme Lalor Ravalomanan est vainqueur de l'élection du 31 juillet 2015. C'est un résultat officieux, mais il appartient au tribunal administratif de proclamer le résultat définitif. Donc en attendant le résultat définitif, un candidat d'un parti Freedom a porté plainte contre le candidat de Lalor Ravalomanan. La raison, c'est que la candidate du team a mis le mot « Néni », qui veut dire « maman » en malgache, dans le bulletin unique. Or, la loi à Madagascar a dit que dans le bulletin unique, le nom d'un candidat n'est pas autorisé. On ne sait pas encore ce qui va se passer. En tout cas, le résultat définitif, ce sera le 18 août. Qui est proclamé par le tribunal administratif malgache.
La mairie de Tana est très convoitée. Est-ce que les partisans de Ange Raguel sont mêlés en fait à cette bagarre?
Jusqu'à maintenant, on n'entend pas trop de déclarations des candidats de Ange Raguel.
Mais que la femme de Marc Ravalomanan vienne à la mairie, est-ce que ça signifie quelque chose pour les Malgaches?
Les Malgaches ne mêlent pas trop dans la politique. Les Malgaches pensent que c'est l'affaire des politiciens. Donc jusqu'à maintenant, on n'entend pas trop de déclarations des citoyens malgaches. Quoi.
Est-ce que ce n'est pas une manière de ramener Marc Ravalomanan, qui lui-même a été renversé par Ange Raguel?
Les politiciens pensent que c'est une voie, c'est une occasion pour Marc Ravalomanan de retenir à la présidence. Mais pour le moment, on ne voit pas trop cette chose, quoi. Mais néanmoins, Ravalomanan fait toujours des déclarations politiques. entre autres le mémorandum de stabilité qui est un sujet à débattre à Tsimbazaza, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale malgache.
La journaliste Vohangi Rakutuzaf de Midi Madagascar.
Dans un communiqué publié aujourd'hui, le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant exhorte le Conseil Justice et Affaires intérieures de l'Union européenne à inclure les droits de l'enfant dans le traitement de la crise des réfugiés. Pour le politologue Émile Baroudi, le défi dans cette crise est plutôt d'ordre sécuritaire et politique, l'Europe craignant des infiltrations de djihadistes. Son analyse au micro de Nathalie Barge.
Je ne crois pas que l'Europe a un grand problème sur le côté humanitaire ou comment vraiment intégrer ces gens-là. Leur nombre n'est pas très grand, mais l'enjeu est surtout politique et sécuritaire. Les Européens n'ont aucun moyen de savoir qui de ces migrants ou de ces réfugiés est vraiment un réfugié et qui est un terroriste qui s'est mêlé au troupeau des brebis blanches qui arrivent à leur porte. Donc le côté pour eux sécuritaire et primordial. Le côté politique aussi, parce que ce flux de migrants et de réfugiés montre vraiment que la Turquie est derrière ça. Le gouvernement turc a permis aux passeurs de commencer à faire passer tous ces gens-là dans les îles grecques et puis de les acheminer vers l'Europe.
Est-ce que la Turquie fait cela pour raison politique ou est-ce réellement une question financière, hein, comme le disent beaucoup les organismes humanitaires, hein, que la Turquie n'est plus à même de venir en aide à toutes ces personnes réfugiées?
Oui, la Turquie n'a pas essayé de résoudre ce problème. Des problèmes financiers, il en existe. Le Liban aussi affronte des difficultés financières énormes pour recevoir un million et demi de réfugiés. Mais la Turquie, écoutez, il faut juste voir la synchronisation. Ce flux a commencé quand la Turquie a commencé à vouloir vraiment s'imposer dans le nord de la Syrie et le nord de l'Irak. Ce flux de réfugiés a commencé au même moment où la Turquie faisait des incursions en territoire irakien pour régler des comptes avec les partis de PKK turcs, ou comme il s'appelle maintenant, de YPG. Donc, n'oublions pas que la Turquie, pendant des années aussi, a laissé sa frontière vraiment poreuse pour l'État islamique qui venait à sa guise. Tous les membres de l'État islamique ont transité par la Turquie. Ils ne pouvaient pas faire autrement.
Ce pays, la Turquie, n'est-il pas dans la position la plus périlleuse, hein, par rapport à ce qui se passe avec l'État islamique? Elle est aux portes de l'Europe et frontalière avec l'Irak et la Syrie.
Oui, bien sûr. La position géographique de la Turquie n'est pas facile non plus. Mais de l'avis de tous les experts, la Turquie n'a pas joué ses cartes dans ce cadre-là. Elle a joué des cartes en voulant s'imposer dans le dossier syrien. On se souvient que Erdogan avait exigé le départ de Bachar el-Assad, comme tout, mais il a été beaucoup plus virulent que les autres. On le comprend, il est juste à la frontière. Mais il a aussi exigé une zone sécuritaire tout au long de la frontière, mais quand tout cela n'a pas marché, il a laissé passer l'État islamique. Il a joué un peu le jeu de Bachar el-Assad.
Émile Baroudi, journaliste indépendant à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
11 septembre 2015, déjà 14 ans après les attaques meurtrières du 11 septembre 2001, est-ce que les jeunes Américains se rappellent ou comprennent cet événement tragique? Isha Sarai a pris contact avec des écoles aux États-Unis.
Les jeunes étudiants d'aujourd'hui, surtout ceux qui n'ont pas grandi à New York ou à Washington, ne se souviennent pas du 11 septembre 2001. Ce sont souvent les parents et les enseignants qui leur expliquent ce qui s'est réellement passé. Seth Badi, enseignant de français au lycée Asheville School, en Caroline du Nord.
Alors, autrefois, le directeur de l'école a remarqué qu'il faut observer le 11 septembre, peut-être une minute de silence, ou une petite leçon d'histoire devant une réunion générale de l'école, mais maintenant, on a arrêté de parler de ça. Ça va être dans les cours d'histoire, mais ça va être oublié comme on oublie l'histoire, naturellement, tristement.
J'imagine que vous aussi, vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants qui est peut-être différent que ce que vous enseignez aux étudiants?
Quelqu'un a publié un livre pour les enfants. Je lis ce livre à mes enfants souvent et on en parle.
Jordan Raoul, jeune enseignant de français en Géorgie, nous parle, lui, de son expérience personnelle.
Je m'en rappelle bien, toujours aussi bien. J'imagine que c'est un peu comme pour nos parents. Tout le monde parle du jour où Kennedy est mort et tout le monde se rappelle. Il y avait déjà une télévision dans la salle de classe. Nous avons passé toute la matinée à regarder les images des avions qui rentraient dans les tours. Et les administrateurs de l'école, comme tout le monde, j'imagine, ne savaient pas trop quoi faire. On avait peur, hein. À l'époque, moi j'avais 12 ans, mais tout le monde avait peur. Donc nous avons toute une génération d'enfants, d'adolescents, maintenant de jeunes personnes, de jeunes adultes, qui ont grandi avec le savoir qu'on a été attaqué brutalement par des terroristes.
Comme enseignant, comme prof, quelles sont vos responsabilités aux étudiants qui ne comprennent pas ou qui ne se souviennent pas de cet événement?
On a la très heureuse opportunité d'enseigner aux jeunes, de toujours garder l'esprit ouvert aux autres.
Jordan Raoul, un jeune professeur de français en Géorgie.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est vendredi, alors Morgane, on va se quitter en musique. Il s'appelle Jason Alden. Le titre, You're Gonna Know Where We Are.
Okay, that sounds good.
Un choix de Georges Léonard Sagnon, on l'écoute.
Matches, we gonna turn this town to ashes, cause they ain't never seen nothing like us. I ain't heard loud till we turn it up. I got the wild, you got the crazy, you know that's why I love you, baby, cause your motor runs just as fast as mine, pedal to the metal, keep the throttle down all night. A good tale to tell. Let's give them something they ain't never seen. A little rated R redneck dream. Let's blaze a trail through the dirty south. And give them something they can talk about. A little story that they won't.
Et c'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnon a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Tian Wang à la console. Au micro, Morgane Guiriec et chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et bien sûr, on est ensemble 24 heures sur 24 sur voaafrique.com. Les nouvelles dans un instant.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.